Chapitre 3. Portrait que je fais en arrivant à Rome. Les palais, les églises, la semaine sainte, le jour de Pâques, la bénédiction du pape, la Gironde, le carnaval, Madame Benti, Crescentini, Marchesi, sa dernière représentation à Rome. Aussitôt après mon arrivée à Rome, je fis mon portrait pour la galerie de Florence. Je me peignis, la palette à la main, devant une toile sur laquelle je trace la reine avec du crayon blanc. Puis je peignis Miss Pitt, la fille de Lord Camelfort. Elle avait 16 ans, était fort jolie. Aussi la représentai-je en ébé, sur des nuages, tenant à la main une coupe dans laquelle un aigle venait boire. J'ai peint cet aigle d'après nature et j'ai pensé être dévoré par lui. Il appartenait au cardinal de Bernis. Le maudit animal, qui avait l'habitude d'être toujours en plein air, enchaîné dans la cour, était si furieux de se trouver dans ma chambre qu'il voulait fondre sur moi, et j'avoue qu'il me fit grand-peur. Je fis dans le même temps le portrait d'une Polonaise, la comtesse Potocka. Elle vint chez moi avec son mari, et dès qu'il nous eut quittés, elle me dit d'un grand sang-froid « C'est mon troisième mari, mais je crois que je vais reprendre le premier, qui me convient mieux, quoiqu'il soit ivrogne. » J'ai peint cette Polonaise d'une manière très pittoresque. Elle est appuyée sur un rocher couvert de mousse et près d'elle s'échappent des cascades. Je peignis ensuite Mademoiselle Roland, alors la maîtresse de Lord Wellesley, qui a peu tardé à l'épouser. Puis je fis mon portrait pour ma réception à l'Académie de Rome, une copie de celui que je dessinais à Florence que vint me demander Lord Bristol. Le portrait de Lord Bristol lui-même jusqu'au genou et celui de Madame Silva, jeune portugaise, que j'ai retrouvée depuis à Naples et dont je parlerai plus tard. En tout, j'ai prodigieusement travaillé à Rome pendant les 3 ans que j'ai passés en Italie. Non seulement je trouvais une grande jouissance à m'occuper de peinture, entourée comme je l'étais de tant de chefs-d'œuvre, mais il fallait aussi me refaire une fortune, car je ne possédais pas 100 francs de rente. Heureusement, je n'eus qu'à choisir, parmi les plus grands personnages, les portraits qu'il me plaisait de faire. La satisfaction d'habiter Rome pouvait seule me consoler un peu du chagrin d'avoir quitté mon pays, ma famille et tant d'amis que je chérissais. L'intérêt qu'inspirent les beaux lieux est si vif pour tout le monde et si profitable à un artiste qu'il suffit pour répandre quelques douceurs sur la vie. Combien de fois, voulant me distraire de pensées trop pénibles, j'ai été au soleil couchant revoir ce Colisée dont l'imagination ne saurait agrandir l'espace? Il est impossible, quand on est là, de songer à autre chose qu'à ces effets si beaux, si divers. Les arcades, éclairées d'un ton jaune rougeâtre, se détachent sur ce ciel d'outre-mer que l'on ne voit nulle part aussi foncé qu'en Italie. L'intérieur ruiné de ce grand théâtre, qui est maintenant rempli de verdure, d'arbustes en fleurs et de lierres, qui courent çà et là, ne doit encore sa conservation actuelle qu'à une douzaine de petites chapelles portant une croix, placées symétriquement au milieu de l'enceinte. C'est là que des confréries viennent faire des stations et d'autres entendre prêcher un capucin. Ainsi, ce qui fut jadis l'arène des gladiateurs et des bêtes féroces est devenu un lieu consacré à notre culte. Quelles réflexions ne font point naître de semblables métamorphoses ? Mais dans Rome, peut-on faire un pas sans rêver à l'instabilité des choses humaines ? Soit que l'on foule aux pieds ces marbres, ces débris de colonnes, ces fragments de bas-reliefs qui faisaient l'ornement des temples, des palais, et qui, malgré leur vétusté, conservent encore le style et le fer délicat des Grecs. Soit qu'on entre dans les églises et qu'on y trouve ces baignoires de marbre précieux qui peut-être ont servi à Périclès ou à Laïs, transformées en tabernacles, le maître-autel de Sainte-Marie-Majeure est une urne antique de porphyre. Les colonnes de la plupart des églises sont celles des anciens temples. Tout offre un mélange de sacré et de profane. Et ces superbes restes d'un temps qui n'est plus ajoutent prodigieusement à la magnificence des cérémonies religieuses qui d'ailleurs ont conservé toute la pompe de l'ancienne Rome. Mon travail ne me privait point du plaisir journalier de parcourir Rome et ses environs. J'allais toujours seule visiter les palais qui renfermaient les collections de tableaux et de statues, afin de n'être point distraite de ma jouissance par des entretiens ou des questions souvent insipides. Tous ces palais sont ouverts aux étrangers, qui doivent beaucoup de reconnaissance au grand seigneur romain d'une telle obligeance. Je me suis décidée à ne donner ici qu'un très léger aperçu de ces magnifiques habitations et des beautés qu'elles renferment. D'abord parce qu'il existe une multitude d'ouvrages qui les décrivent en détail, ensuite parce que tant d'années se sont écoulées depuis mon voyage à Rome que beaucoup de chefs-d'œuvre ont changé de place. J'apprends sans cesse aujourd'hui par des gens arrivant d'Italie que telle statue ou tel tableau n'est plus où je l'avais vu, et je ne veux point induire en erreur les amis des arts. Le palais Justinien renfermait alors une immense quantité de chefs-d'œuvre qui, depuis, ont tous été vendus. J'y admirais l'ombre de Samuel, un des plus beaux tableaux de Gérard de la Notte. C'est un effet de nuit du genre habituel de ce maître. Plusieurs statues antiques, entre autres la fameuse Minerve, devant laquelle on a longtemps brûlé l'encens, ce qu'on reconnaît en voyant le bas de cette statue très enfumée. Le palais Farnèse, Doria, Barbarini, étaient pleins aussi d'objets d'art qu'on ne se lassait pas d'aller revoir. Dans le dernier, qui est situé sur le mont Quirinal et dont la cour enfermait alors un obélisque égyptien, la voûte du grand salon est peinte par Pierre de Cortone. Dans d'autres salles, on trouvait la mort de Germanicus, du Poussin, une Madeleine et un enfant endormi de Guido et plusieurs beaux portraits de ce peintre. En sculpture, un magnifique buste d'Adrien, le faune qui dort et beaucoup d'autres statues et bas-reliefs antiques. Le palais Colonna est cité comme le plus beau de Rome. Toutefois, il est loin d'offrir le même intérêt que le palais Borghese. Celui-ci est si riche en tableaux des grands maîtres et en statues qu'il peut, ainsi que la villa du même nom, passer pour un musée royal. C'est là que j'ai vu les plus beaux tableaux de Claude Lorrain. Si l'on s'en croyait, on passerait sa vie à Rome dans les palais dont je parle et dans les églises. Les églises renferment des trésors en peinture, en mausolées admirables. En ce genre, les richesses qui ornent Saint-Pierre sont assez connues. Pourtant, je veux dire un mot du mausolée de Ganganelli par Canova, qui est une bien belle chose. C'est à San Pietro in Vincoli que se trouve celui de Jules II par Michel-Ange. À Saint-Laurent hors des murs, on voit des tombeaux antiques. L'un d'eux représente un mariage et l'autre une vendange. L'église de Saint-Jean de Latran, qui est ornée de colonnes, renferme aussi plusieurs tombeaux du même genre, dont l'un est en porphyre et d'une immense dimension. Le cloître, qui joint la sacristie, est rempli d'inscriptions antiques, écrites en diverses langues. C'est à Saint-Jean de Latran que le peuple monte à genoux les 28 degrés qui précèdent le portail. La plus belle des églises, sous le rapport d'architecture, est celle de Saint-Paul hors des murs, dont l'intérieur de chaque côté est orné de colonnes. On ne peut douter que Saint-Paul n'ait été un temple, et c'est dans ce style que j'aurais désiré Saint-Pierre. À Saint-André-de-Laval, la coupole et les quatre évangélistes sont peints par le Dominicain. C'est à la Trinité du Mont que se trouve aussi la célèbre descente de croix de Daniel de Volterra. Ce tableau, aussi admirable par la composition que par l'expression, est un des chefs-d'œuvre les plus remarquables de Rome. Je l'ai vu bien dégradé, mais on m'assure qu'aujourd'hui il est parfaitement restauré. Je ne sais s'il faut dire que l'on voit dans l'église de la Victoire de Sainte-Marie la fameuse Sainte Thérèse du Bernin dont l'expression scandaleuse ne peut se décrire. Mais c'est à San Pietro in Montorio qu'on pouvait admirer alors la transfiguration de Raphaël. On ne peut avoir une idée de l'effet imposant et grandiose que produit la religion catholique quand on n'a point vu Rome pendant le carême. La semaine sainte commence au dimanche des Rameaux et se passe en cérémonie religieuse dont la pompe est vraiment admirable. Le mercredi, je me portais avec la foule à la chapelle de Montecavallo où se chante le Stabat Mater de Pergolèse, musique qu'on peut appeler céleste. Le jeudi, j'assistais à la messe qui se dit à Saint-Pierre avec la plus grande magnificence. Les cardinaux, revêtu de riches chasubles et tenant un cierge à la main, se rendent dans la chapelle Pauline qui est éclairée par 1000 cierges. Un grand nombre de soldats qui portent des cuirasses et des casques de fer suivent le cortège et le coup d'œil de cette procession est superbe. Le matin du vendredi saint, j'allais à la chapelle Sixtine entendre le fameux Miserere d'Allegri chanté par des soprani sans aucun instrument. C'était vraiment la musique des anges. Le soir, je me rendis à Saint-Pierre. Les 100 lampes de l'autel étaient éteintes. L'église ne se trouve plus éclairée que par une croix illuminée, prodigieusement brillante. Cette croix a pour le moins 20 pieds de hauteur et vous paraît être suspendue d'une manière magique. Nous vîmes entrer le pape qui s'agenouilla. Il était suivi de tous les cardinaux qui l'imitèrent. Mais ce qui, je l'avoue, me surprit et me scandalisa même, ce fut de voir, pendant la prière du Saint-Père, une quantité d'étrangers se promener dans l'église avec la même liberté que s'ils étaient dans le jardin du palais royal. Le jour de Pâques, j'eus soin de me trouver sur la place de Saint-Pierre pour voir le pape donner sa bénédiction. Rien n'est plus solennel. Cette place immense est couverte dès le grand matin par des groupes de paysans et d'habitants de la ville voisine, tous en costumes différents, de couleurs fortes et variées. On y voit un grand nombre de pèlerins, et pas un de ces groupes ne se divise. Les galeries de chaque côté de l'église étaient remplies de Romains et d'étrangers, puis en avant se trouvaient placées les troupes du pape et les troupes suisses, enseignes et drapeaux déployés. Le plus religieux silence régnait partout. Ce peuple était aussi immobile que le superbe obélisque de granit oriental qui orne la place. On n'entendait que le bruit de l'eau tombant des deux belles fontaines se perdre doucement dans l'immensité de la place. À 10 heures, le pape arriva, tout habillé de blanc et la tiare sur la tête. Il se plaça dans la tribune du milieu en dehors de l'église, sur un magnifique trône cramoisi très élevé. Tous les cardinaux, vêtus de leurs beaux costumes, l'entouraient. Il faut dire que le pape Pie VI était superbe. Son visage coloré n'offrait aucune trace des fatigues de l'âge. Ses mains étaient très blanches et potelées. Il s'agenouilla pour lire sa prière. Après quoi, se levant, il donna 3 bénédictions en prononçant ces mots « Urbi et Orbi » à la ville et au monde. Alors, comme frappé par un coup d'électricité, le peuple, les étrangers, les troupes, tout se prosterna, tandis que le canon retentissait de toutes parts. Ce qui ajoute encore à la majesté de cette scène, dont il est, je crois, impossible de ne pas se sentir attendri. La bénédiction donnée, les cardinaux jettent de la tribune une grande quantité de papier que l'on m'a dit portait des indulgences. C'est à ce moment seulement que les groupes dont j'ai parlé se rompent, se confondent, qu'un millier de bras s'élèvent pour saisir un de ces papiers. Le mouvement, l'ardeur de cette foule qui s'élance et se presse, est au-dessus de toute description. Lorsque le pape se retire, la musique des régiments joue des fanfares et les troupes défilent ensuite au son des tambours. Le soir, le dôme de Saint-Pierre est illuminé, d'abord en vert de couleur, puis subitement en lumière blanche du plus grand éclat. On ne peut concevoir comment ce changement s'opère avec tant de rapidité, mais c'est un spectacle aussi beau qu'extraordinaire. Le soir aussi, on tire un très beau feu d'artifice au-dessus du château Saint-Ange. Des milliers de bombes et de ballons enflammés sont lancés dans l'air. La girandole qui termine est ce qu'on peut voir de plus magnifique en ce genre, et le reflet de ce beau feu dans le Tibre en double l'effet. À Rome, où tout est resté grandiose, on n'illumine point avec de misérables lampions. On place devant chaque palais d'énormes candélabres d'où sortent de grands feux dont les flammes s'élèvent et rendent, pour ainsi dire, le jour à toute la ville. Ce luxe de lumière frappe d'autant plus un étranger que les rues de Rome habituellement ne sont éclairées que par les lampes qui brûlent devant les madones. La foule des étrangers est attirée à Rome bien plus pour la Semaine Sainte que pour le carnaval, qui ne m'a pas semblé fort remarquable. Les masques s'établissent sur des gradins, déguisés en arlequins, en polichinelles, etc., ainsi que nous les voyons à Paris sur les boulevards, si ce n'est qu'à Rome, ils ne bougent point. Je n'ai vu qu'un seul jeune homme qui courait les rues, costumé à la française. Il contrefaisait à s'y méprendre un élégant très maniéré que nous avons tous reconnu. Les voitures, les chars vont et reviennent, remplis de personnes costumées richement. Les chevaux sont parés de plumes, de rubans, de grelots, et la livrée porte des habits de scaramouche ou d'arlequin. Mais tout cela se passe le plus tranquillement du monde. Enfin, vers le soir, quelques coups de canon annoncent les courses de chevaux qui animent le reste du jour. Une de mes jouissances, dès que je fus arrivé à Rome, fut celle d'entendre de la musique, et certes, les occasions ne manquaient pas. La célèbre Banti s'y trouva pendant mon séjour. Quoiqu'elle eût chanté plusieurs fois à Paris, je ne l'avais jamais entendue, et j'eus cette jouissance à un concert qui se donna dans une galerie immense. Je ne sais pourquoi je m'étais figuré qu'elle avait une taille prodigieusement grande. Elle était au contraire très petite et fort laide, ayant une telle quantité de cheveux que son chignon ressemblait à une crinière de cheval. Mais quelle voix ! Il n'en a jamais existé de pareille pour la force et l'étendue. La salle, toute grande qu'elle était, ne pouvait la contenir. Le style de son chant, je me le rappelle, était absolument le même que celui du fameux Pacchiarotti dont Madame Grassini a été l'élève. Cette admirable cantatrice était conformée d'une manière très particulière. Elle avait la poitrine élevée et construite tout à fait comme un soufflet. C'est ce qu'elle nous fit voir après le concert, lorsque quelques dames et moi furent passées avec elle dans un cabinet. Et je pensais que cette étrange organisation pouvait expliquer la force et l'agilité de sa voix. Très peu de temps après mon arrivée, j'allais, avec Angelica Kaufmann, voir l'opéra de César, dans lequel Crescentini débutait. Son chant et sa voix, à cette époque, avaient la même perfection. Il jouait un rôle de femme et il était affublé d'un grand panier, comme on en portait à la cour de Versailles, ce qui nous fit beaucoup rire. Il faut ajouter qu'alors Crescentini avait toute la fraîcheur de la jeunesse et qu'il jouait avec une grande expression. Enfin, pour tout dire, il succédait à Marchesi, dont toutes les romaines étaient folles, au point qu'à la dernière représentation qu'il donna, elles lui parlaient tout haut de leurs regrets. Plusieurs même pleuraient amèrement, ce qui, pour bien du monde, devint un second spectacle.